Il y a des souvenirs qui ne s'effacent jamais.
Et il faut faire quoi? J'aimerais rembobiner le père.
Je ne sais pas ce que j'ai dans le cerveau, mais une espèce de boîte à souvenirs. L'être humain est un drôle de gaillard, des fois.
Quelle aventure!
Voilà ma vie à peu près. Le Lavau, c'est le vin de Lavau, mais le paysage, c'est Lavau tout court. Alors, je suis étonné de voir maintenant, par exemple, dans nombre d'articles, même des journalistes chevronnés, ils ont oublié cette notion. Je ne sais pas si elle est absolument valable. Mais le Lavau, c'est le vin de Lavau, et Lavau tout court, c'est la région de Lavau.
C'est quoi la particularité des vignerons de Lavau?
C'est peut-être parce que la grande majorité sont des vignerons indépendants qui vinifient leur récolte. Il y en a quelques-uns qui font partie des coopératives, mais c'est vraiment une petite minorité. La grande partie, c'est des gens qui sont propriétaires, en caveur, qui vinifient leur récolte, qui mettent en bouteille, et puis qui vendent leurs flacons. Et c'est comme ça que tu gagnes le mieux ta vie. Parce que quand tu as un domaine relativement petit, comme c'est le cas ici, et que tu vends en vrac, tu vis, mais c'est tout. Compte tenu de l'exposition du vignoble, au niveau du goût et du caractère, c'est vrai que c'est issu des vignes des grosses terres, argileuses, des terres solides, difficiles à travailler avec les machines, mais dans laquelle la vigne se plaît bien. Ça fait des vins, ouais, des vins corsés. Encore faut-il bien s'en occuper, être soigneux, dès le départ, la vinification propre. Bon, ouais, je crois que c'est en 1952 qu'on a fait la première mise. Il doit y avoir encore une bouteille ou deux au Carnot. Puis après, ça a suivi son cours, ça a été en augmentant. Et puis moi, quand je suis arrivé, je ne vais pas dire au pouvoir, mais quand j'ai eu 52, j'avais 19 ans, j'étais convaincu qu'il fallait qu'on aille vers la vente d'une bouteille. Puis c'est parti tranquillement pour arriver dans les années 80, 82, 85. On sortait à peu près 20 000 flacons. Je taquine des fois Jean-Christophe concernant ses revenus. Il me dit donc le père, en 86, c'est assez incroyable. On a travaillé pour améliorer la qualité. Alors, pendant quelques années, j'ai présidé le groupe d'études viticoles d'Aran. On organisait des dégustations chaque 3 semaines. Mardi soir, chacun apportait ses bouteilles. Monsieur Linéaire, qui était le champion des dégustateurs, il était courtier. On procédait à la critique, nos vins, pour essayer d'améliorer. Et ça nous a rendu beaucoup service. Moi, j'ai peut-être eu de la chance. Je sortais assez bien, même bien, aux dégustations d'Aran, parce que mon papa avait planté une certaine surface de Johannisberg, le blanc du Rhin, qui était vendangé et mélangé avec le chasselas. Et ça donnait au chasselas une petite rondeur, un petit quelque chose qui était apprécié. Mais il est question de vin dans l'Ancien Testament déjà. Donc c'est pas les vignerons de Lavau qui ont inventé quelque chose. On a simplement, il faut l'admettre, su profiter de l'exposition de la région viticole, des conditions climatiques, du terroir peut-être. Oui, c'est un petit peu miraculeux, quand même. C'est vrai que le vin, dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et le vin réjouit le cœur de l'homme. Pendant très longtemps, les Égyptiens et tout ça, le vin, c'était à peu près la seule boisson. Si tu fais du vin et que tu le mets dans un récipient, que tu fermes, il se conserve, tu mets de l'eau, c'est pas la même chose. Du sirop, c'est pas la même chose. Alors le vin, ça a toujours eu une réputation d'une boisson saine. Évidemment, si tu en bois 3 litres par jour, c'est peut-être un peu trop, mais... S'enivrer, c'est vrai, mais ça n'a pas le même effet sur chacun. Quand on dit de quelqu'un, il a le vin mauvais, et puis l'autre, si c'est le contraire, il boit quelques verres, il devient amoureux. Le vin, c'est vrai que c'est quelque chose.
Ce serait un peu un révélateur, le vin?
Oui. Ah oui. Il y a des gens, si tu veux les faire causer, dans des affaires judiciaires, par exemple, dans des enquêtes, tu leur donnes quelques verres à boire. Il y a quelque chose qui s'ouvre quelque part. Pas tout le monde. Mais c'est vrai que si tu organises une fête, une rencontre, avec seulement du coca ou je sais pas quoi comme ça, c'est pas du tout la même chose que s'il y a un verre de vin. Puis tout de suite, ça crée une certaine ambiance, une certaine convivialité, dirons. Le vin a un effet différent, je crois, pour à peu près chaque personne. Non, c'est un élément qui joue un rôle important dans les relations humaines, je crois. Avec le temps, on acquiert une certaine philosophie. Et puis on est conscient que, par exemple, pour la grêle, tu ne peux rien faire. Tu peux faire une assurance. Moi, je faisais une assurance parce que je connaissais bien l'agent d'assurance, qui est un copain, le syndic. Il faut réfléchir parce que la prime, l'assurance de la grêle, c'était 8000 francs qu'il faut sortir quand même. J'ai payé beaucoup plus d'assurance que je n'ai reçu. Il a grêlé l'année de naissance de Jean-Christophe. J'avais touché, je ne sais pas, quelques 6 ou 7 000 francs, je ne me rappelle plus. Il existe des fusées anti-grêle. Quand la grêle, l'orage est menaçant, il y a un certain nombre de postes, au château de Montagnier par exemple. Il y a un gars qui est titulaire de cette histoire. Il y a une liaison radio avec Cointrin qui donne l'intensité du risque, et s'il faut tirer, compte tenu des circonstances locales, bien sûr, quand on a l'habitude, on apprend à doser le danger, si tu veux. On dit, ouh, ça sent la grêle. Alors ces gars, ils tirent des fusées qui font une grosse déflagration dans les nuages, qui dispersent, l'explosion dans les nuages disperse du iodure d'argent, qui est une poudre extrêmement fine, qui est censée être entraînée vers le haut par l'air chaud qui monte. Le principe, c'est d'introduire, là où se forme la grêle, d'introduire une petite poudre qui fait qu'il y a des petits grêlons en grand nombre, ou sinon il y a des grêlons qui peuvent être énormes. Ils grêlent beaucoup, moi je me demande pourquoi. Alors, au printemps, le travail le plus important, c'est la taille. Généralement, ça se fait au mois de février, mars, quelquefois avant, mais il y a un dicton qui dit « taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille des mars ». Si on taille plus tôt, on prend le risque, s'il fait un mois de février trop chaud, par exemple, que la vigne commence à débourrer, comme ça s'est passé en 1956, c'est une catastrophe, et puis il revient après. On dit justement, en avril, n'ôte pas un fil, parce qu'en avril, il peut revenir du gel. Mais on a peut-être de la chance, à Lavaux, il n'a jamais gelé au mois d'avril. En 1938, tout avait gelé à la côte, Genève, partout. Lavaux, il y avait 30% de dégâts, puis c'est tout. On était les seuls à avoir fait un peu de récolte. À cette époque-là, n'existait pas encore la charrue tirée par un treuil qui fait... Le soc est fait de façon à ce que tu passes, puis la terre, elle va s'appuyer contre les cèpes. On appelait ça, c'est la bourrée. Et au printemps, évidemment, c'est une autre machine qui permet de refermer. Après ça, il fallait, avec un outil fossoir, aller défaire les entre-deux, c'est-à-dire, quand tu as des souches, tu passes la machine, mais quand tu refermes, il reste une bande de terre, là. Alors l'usage, pour que c'est une bonne façon, il fallait égaliser le terrain. C'était aussi une garantie pour la mauvaise herbe. On empêchait une germination trop rapide. C'était le gros boulot du... Après la taille, c'était le gros boulot, c'était ça. Refermer. On disait refermer des choses. Après, si le temps est favorable et un peu chaud, la vigne débourre. C'est le mot qu'on utilise pour dire quand elle commence à pousser. Elle débourre. Et à partir de là, une fois que ça a débourré, qu'elle a poussé un ou deux, quelques centimètres, il faut se préoccuper des maladies, des fongiques, le mildiou, l'odium. Il faut traiter en conséquence. Après viennent les travaux de feuilles, les effeuilles. La vigne pousse. Donc je parle là évidemment de l'époque où on n'avait que des cultures en gobelet, parce que le travail de faire les entre-deux à la main ne se faisait pas dans les cultures plus larges, mais dans le gobelet on le faisait. Alors une fois que la vigne est au mois de mai, qu'elle a 10, 20, 30 centimètres, il faut ébourgeonner, c'est-à-dire éliminer des pousses qui ne sont pas à leur place, ou celles qui concurrencent trop certaines pousses à côté, pour garder au cep une certaine forme. On s'arrange toujours pour que, après avoir ébourgeonné, les grappes soient au maximum ensoleillées. Ça, c'est l'ébourgeonnage. En parler local, c'est la plane. Éplanée, c'est la plane. Puis quand la vigne est plus longue, alors c'est déjà les effeuilles, c'est-à-dire, tu as le bois avec les feuilles, et à l'intersection, là où la feuille quitte le bois, il y a un bouton qui se développe, qui fait aussi une pousse. Mais qu'on est obligé d'enlever, sinon ça fait un fouillis, pas possible. Le raisin ne voit plus le soleil. Alors il faut faire ça, il faut planer, après il faut rebioler, attacher la vigne à l'échalas. C'est une saison qui est pénible, parce que souvent il fait très chaud. Alors on se lève 4h, 4h30, pour être un moment en tout cas, pas au frais, mais... pour éviter la grande chaleur. Quand les effeuilles sont finies, la vigne, forcément, donc je parle bien de la culture en gobelet, hein, elle pousse, elle monte. Mais tu ne peux pas la laisser aller 2-3 mètres de haut, parce qu'elle se couche après. Alors il faut cisailler. On la maintient à une hauteur comme ça. Puis quand on en est là, on peut dire que le gros boulot du vigneron est fait. On arrive comme ça au mois d'août, 15 août. Il y a déjà certaines années, déjà quelques grains qui sont consommables. Ça traduit, on appelle ça. La véraison, les raisins traduits. On aime assez aller à la vigne à ce moment-là, puis on mange quelques raisins, ça fait du bien. Puis après viennent les vendanges, qui, jusqu'à il y a quelques années, faisaient l'objet d'une décision officielle, la profession générale, l'organisation commerciale des vignerons. C'est sous la férule de la Fédération Vaudoise des Vignerons. Et la date des vendanges, anciennement à cette époque, je dis jusqu'en 1970 ou 80, la section de la Fédération des Vignerons de Lutry, je prends Lutry, puisque c'est là que j'étais concerné, convoque une assemblée générale. Cette assemblée décide de la date des vendanges. Et les vignerons sont censés se soumettre à cette décision dans le but d'empêcher que les vignerons vendangent trop tôt au détriment de la qualité. Le vigneron qui a sa vigne qui est prête à vendanger, il a peur qu'il vienne de la graine. Alors il aurait tendance à dire ce qui est rentré est rentré. Alors pour éviter ce phénomène et puis favoriser la qualité, il y a cette décision qui avait force de loi dans le fond. Mais c'était des fois un petit peu élastique parce qu'il y a des cépages qui mûrissent plus vite que d'autres. Le plan du Rhin, par exemple, il a tendance à être prêt avant le chasselas. Certains rouges aussi, il y avait un petit peu d'élasticité là, mais c'était quand même assez bien respecté. Alors, si je me reporte à ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, c'était différent de maintenant. Il y avait une équipe de vendangeuses, généralement fidèles, qui revenaient plusieurs années. On avait des contacts avec des dames des coteaux, c'était un petit peu dans l'ordre des choses à l'année prochaine. Il y avait un tarif pour les rétribuer. Alors la vendange, c'était, il fallait, dans l'exploitation ici, on prenait généralement 5 vendangeuses, quelquefois 6, et puis 2 hommes pour porter la brante. Parce que depuis en bas, moi, à partir de 13 ans, j'avais la brante sur le dos comme les hommes. On était solides quand même. 40 kilos de raisin, plus la brante elle-même qui fait entre 15 et 20 kilos, parce que quand elle est gaugée, tu vois, on est obligé de les gauger avant, autrement ça coule. Et puis dans les brantes, on avait tendance à serrer un peu le raisin. Ça, c'était 60 kilos sur le dos, monté depuis tout en bas, là. Mais ça ne nous a pas usé, enfin, pas trop. Cette vendange, on la montait au pressoir. Depuis toujours, on montait la route donc, jusqu'à l'entrée du pressoir, qui est le long de la route en bas. Et puis en 1957, j'ai creusé un canal depuis la cour en haut, qui arrive directement en dessus du pressoir. Et puis on avait mis le broyeur, c'est-à-dire la machine qui broye les raisins, en haut aussi. Le raisin descendait tout seul dans la tine en bas. Ça, c'est une amélioration sensible. Et puis les vieux pressoirs, ça c'est une histoire. Tous les soirs, en fin de journée, à la fourche, on était dans ce qu'on appelait la tine. C'était un grand récipient de la grandeur de la pièce, là, à peu près, où le raisin tombait directement là-dedans. De là, on l'écoulait. Il y avait un système d'ouverture. Tout le jus partait dans un bassin en dessous. Là, c'était la pompe, pompe à la cave. Et puis, une fois que c'était bien écoulé, à la fourche, on prenait ce raisin et on le mettait dans le pressoir qui était directement à côté. Puis après, c'était le pressurage avec les vieilles installations. Alors, les soirées se passaient comme ça. Bon, il y avait toujours une ambiance assez formidable. Tout le personnel était au pressoir. Certains se produisaient, chantaient. Il y en a un qui prenait l'accordéon. Et on buvait des verres. Oui, il y avait toujours, en tout cas chez nous, toujours une bonne ambiance. Et le personnel revenait spontanément chaque année. Il y avait des contacts qui carrément amicaux. Parce qu'une fois que tu as 3, 4, 5 ans, la même personne qui vient finit par se connaître. Ça, c'était le pressoir, oui. Et avec l'ancien système de pressoir, on commençait de presser le soir, après souper généralement, vers 8 heures. 7h30, 8h, et on enlevait la pressée, c'est-à-dire les raisins pressés à 5h, 5h30. Il fallait presque une bonne vingtaine d'heures. Donc, c'est selon l'ancien système. Après, ça a complètement changé. Maintenant, il y a un pressoir automatique. Parce que les pressés, dans l'ancien pressoir, à vis, tu presses d'abord une fois. Au bout d'un petit moment, il n'y a plus rien qui vient. Tu peux presser tout ce que tu veux, ça ne vient plus. Cette matière, il faut la brasser. Ça se faisait à la main, mais ça, c'était une corvée. Dans tous les gens qui sont venus m'aider, il n'y en a qu'un qui était capable de me rebrasser une pressée, que je puisse souffler. Parce qu'il fallait avoir une certaine précision. Mais évidemment que les hommes s'usent. Et à un certain moment, moi, j'arrivais plus. J'ai pris la décision de liquider l'ancien pressoir, de sortir tout ça pour gagner de la place en bas et puis d'acheter un pressoir automatique, pneumatique. Ça a changé complètement toute cette technique des vendanges, comme dans beaucoup d'autres domaines de toute façon. Alors, au pressoir, le jus qui sort, vient dans une espèce de petite cuve en béton ou en bois. Et puis à partir de là, c'est pompé à la cave, au fond de la cave. Mon papa avait acheté la première pompe, je crois, en 1938. Pompe à main, tu tournes une nivelle, puis avec des tuyaux, tu pompes le jus directement à la cave. Avant, je me rappelle encore avoir vu ça. J'étais pas bien, j'avais 4 ou 5 ans. Le jus qui était dans le bassin, sous le pressoir, on le mettait dans une branche à dos. Et il y a, parce que avant que mon père rachète le domaine, il y avait le partisseur, le représentant du propriétaire qui était là, qui mesurait chaque branche. Il y avait une espèce de règlement. C'était rigolo, c'est maman qui me racontait. Le vigneron tâcheron devait accepter le partisseur que lui fournissait le propriétaire, devait le nourrir et le loger. Mais maman me disait que c'était vraiment un tout bon type. Alors, il mesure et touche qui sort du pressoir. Le vigneron, dans le contrat de vignolage avec les propriétaires, a droit à un intérêt sur la récolte. Il reçoit la somme, je ne me rappelle plus, quelques centimes par litre qui sont produits. Alors, pour mesurer, c'est une branche, il y avait un trait, 40 litres. Alors, au pressoir, on remplissait cette branche astier, ça s'appelait. Remplissait, car le partisseur était là, et voilà, c'est bon. C'est pas lui qui portait la branche à la cave. Les supports en fer dans la vigne, des piquets qu'on appelait. On achetait la ferraille par wagon de 20 tonnes, on en mettait plusieurs, et on débitait la ferraille, on soulait les traverses, on fabriquait nos piquets de vigne. Quand on avait quelque chose, on cassait un outil, une charrue, quelque chose de métallique qui était cassé, on allait chez un maréchal ferrant là en haut, qui faisait volontiers le boulot. Mais après on se disait... Quelquefois, il fallait attendre un ou deux jours. Alors, j'ai acheté mon premier poste à soude électrique en 1962. Ça, c'était un truc... On en a soudé. Il existe encore, il est encore à l'atelier.